Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous-nous Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. L'asthme est une maladie fréquente, plutôt bien connue du grand public et pourtant encore sous-diagnostiquée. 235 millions de personnes en souffrent dans le monde, d'après les estimations de l'OMS. Et en France, on compte 4 millions d'asthmatiques. Cette inflammation chronique des bronches se déclare souvent pendant l'enfance et peut prendre des formes assez variées. Gêne respiratoire, toux, réveil nocturne, facteurs génétiques, allergies, crises déclenchées par des émotions ou certaines activités physiques, des crises de fréquences diverses comme d'intensité variable, si bien que l'on parle d'asthme plus ou moins sévère. Une maladie plurielle donc qui s'aborde sous différents angles pour en chercher l'origine, les facteurs déclenchants, adapter le protocole sur le long terme et disposer en cas de crise d'une réponse et d'un traitement d'urgence. Cette prise en charge adaptée sur le plan individuel doit s'accompagner aussi d'une prise de conscience collective face à la hausse du nombre d'asthmatiques dans le monde. Car s'il est bien une pathologie pour laquelle les facteurs environnementaux et la dégradation de l'air que nous respirons ne laissent pas de place au doute, eh bien il s'agit bien de l'asthme. Avec nous en studio, le professeur Louis-Jean Coudert. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes le chef du service de pneumologie à l'hôpital Foch à Suresnes en région parisienne. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec la République démocratique du Congo pour donner la parole au professeur Zachary Kachongwe, pneumologue aux cliniques universitaires de Kinshasa. En fin d'émission, nous retrouverons la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et médecin de l'équipe nationale de judo. Et puis bien sûr, notre numéro, vos témoignages, vos questions au 33 1 84 22 75 75. Professeur Louis-Jean Coudert, si vous le voulez bien, avant d'aborder les questions du diagnostic ou même des symptômes de l'asthme, on va d'abord s'arrêter sur le corps, la description physique. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans nos poumons, dans nos bronches, quand on est asthmatique?
Alors, il se passe l'association de deux phénomènes qui sont premièrement la diminution du calibre de vos bronches, qu'il y a des muscles qui les contractent, et deuxièmement de l'inflammation. C'est-à-dire que dans vos bronches, qui normalement sont des tuyaux de taille variable et qui sont bien libres, arrivent des cellules, du mucus, diverses cellules inflammatoires qui vont les encombrer. Et finalement, le malade ressent très clairement cette modification anatomique. Il tousse, souvent il crache un peu. Ses bronches se mettent à faire du bruit quand il respire. Il siffle, c'est souvent l'expression qui est utilisée. Et ceci n'est que la traduction clinique de ce fait anatomique. Et ce fait anatomique est donc simple. Il est très simple. Il explique comment traiter le malade. Il va falloir d'une part réélargir ses bronches, donc utiliser des médicaments qu'on appelle des bronchodilatateurs, c'est-à-dire des dilatateurs des bronches, et deuxièmement, utiliser des médicaments pour lutter contre l'envahissement par ces cellules inflammatoires, donc des anti-inflammatoires, ce qui vont être représentés par ce qu'on appelle les corticostéroïdes. L'association de ces deux classes de médicaments règle 95% des problèmes, que ce soit de fond ou en aigu. Et comme vous l'avez très bien dit dans votre introduction, cette maladie est mondiale. Nous sommes en communication avec des collègues africains, mais on pourrait être en communication avec des collègues du monde entier. Le monde entier est concerné par cette maladie parce qu'elle associe à la fois des traits personnels, des traits génétiques, comme vous l'avez dit, et puis des traits environnementaux qui concernent aussi bien les populations urbaines que les populations agricoles, c'est-à-dire finalement l'ensemble de la population.
Et ce que vous disiez tout à l'heure, ces sifflements, est-ce qu'on peut parler de signes ou de symptômes? Ça explique tout simplement que le médecin, quand on a un problème respiratoire, écoute notre respiration et dit si ça siffle, si ça bouge, des fois même si ça craquette dans l'arrière du dos.
Alors, je crois que finalement, on est, pour parler vulgairement, jamais aussi bien servi que par soi-même. Il faut bien prendre conscience que la respiration normale est silencieuse. Là, je suis en train de respirer. J'espère que vos auditeurs ne m'entendent pas.
D'ailleurs, quand on a des respirations en radio, on les coupe parce que ça fait du bruit, ça fait de la pollution sonore.
Absolument,
tout simplement.
Voilà. Et donc, ceci n'est pas normal. Une respiration usuelle au repos n'est pas bruyante. Si elle est bruyante, comme on dit vulgairement, il y a un problème. Alors le diagnostic, il est donc a priori extrêmement simple. C'est un diagnostic qui est clinique. Beaucoup de maladies en pneumologie nécessitent des investigations compliquées, onéreuses. Là, franchement, c'est un diagnostic d'interrogatoire et d'examen clinique. Donc c'est à la portée, je dirais, de 99% de la population terrestre.
Oui, mais professeur Couder, on sait bien qu'il y a de nombreuses maladies respiratoires. Qu'est-ce qui permet précisément de distinguer l'asthme ?
Voilà. Alors, l'asthme est schématiquement de deux types. L'asthme qui est clairement allergique, qui est l'asthme qui commence dans la petite enfance, l'adolescence. Et puis un asthme qui est beaucoup moins clairement allergique, qui est l'asthme de l'adulte, c'est-à-dire des gens qui ont 40, 50 ans, qui jusqu'à présent se sont plaints de rien. Chez les enfants, le diagnostic est assez simple. Il est en général assez clairement évoqué. Souvent, il est évoqué, mais il garde une mauvaise image de marque. Il y a comme ça quelques maladies qui inquiètent certains médecins, qui inquiètent certains parents. Et donc, on tourne vulgairement autour du pot. On n'ose pas dire, votre enfant, votre fils, votre fille est asthmatique, ça va se soigner très bien. On dit non, il a une toux asthmatiforme, une bronchite asthmatiforme, il a une dyspnée sifflante, etc. Autant appeler les choses par leur nom, parce que je crois que c'est mieux de savoir ce qu'on a. Parce que après, les recommandations de soins sont parfaitement simples, parfaitement claires. Vous allez avoir du mal à trouver des recommandations sur toux sifflante. Par contre, vous savez exactement ce qu'il faut faire pour un asthme.
Mais c'est certainement dû au fait qu'auparavant, professeur Couder, on n'avait pas forcément tous ces outils thérapeutiques pour prendre en charge l'asthme et qu'on mourait beaucoup plus d'asthme qu'aujourd'hui.
Absolument, on mourait beaucoup plus d'asthme parce que pendant longtemps, il y a eu une crainte totalement injustifiée de traiter. C'est-à-dire que il y a eu deux types d'erreurs. Premièrement, de considérer et de mélanger une maladie respiratoire et une maladie psychologique. Et donc pendant longtemps, on vous disait « Oh, vous êtes gêné pour respirer parce que vous avez eu un souci, un stress. » Il est vrai qu'il y a des connexions, évidemment, neuro-endocriniennes avec les bronches. Mais ce sont des facteurs aggravants, ce ne sont pas des facteurs responsables. Le stress, effectivement, est cause de crise d'asthme, ça bien entendu. Et puis deuxièmement, pendant longtemps, il y a eu une espèce de crainte de dire « Oh là là, le malade ne va pas mieux, il s'est traité, il ne va pas mieux. S'il ne va pas mieux, c'est parce que ses médicaments l'ont aggravé. » Eh bien non. C'est comme quelqu'un qui est hypertendu. Vous prenez un premier médicament contre la tension artérielle. Elle n'est pas suffisamment équilibrée. Qu'est-ce que vous faites? Vous en rajoutez un deuxième. C'est assez logique. Ça ne veut pas dire que le premier médicament vous a aggravé. Et puis simultanément, vous regardez s'il n'y a pas un facteur aggravant qui persiste responsable de vos crises d'asthme. Donc les médicaments de l'asthme sont des médicaments pour 95% de la population qui n'ont aucun effet secondaire, qui sont assez peu onéreux et qui sont, on va dire, normalement, aisément, surtout pour des jeunes, parce que ce sont des dispositifs dont il faut comprendre le maniement, très facile à utiliser. Quand on voit que les jeunes arrivent à pianoter à 2000 à l'heure sur un portable, c'est pas concevable qu'ils ne puissent pas se servir d'un spray qui peut leur sauver la vie.
Justement, pour expliquer, ce sont des inhalateurs, ça se place devant la bouche, on prend des bouffées.
Voilà, alors, pour les inhalateurs, c'est extrêmement simple. Il y a plusieurs modèles, plusieurs marques. On va dire que c'est, grosso modo, c'est plus du packaging que réellement des grandes modifications. Il y a plusieurs classes de médicaments dans les bronchodilatateurs. On va pas détailler là-dessus, mais le mode de maniement est le même. C'est-à-dire que vous avez une espèce de petit spray qui ressemble, on va dire, à un gros tube de rouge à lèvres. Les dames vont voir ce que je veux dire. Et donc, au bout, il y a un petit embout qui permet d'inhaler. Vous le secouez, vous inspirez, vous bloquez votre respiration 3 secondes et vous soufflez doucement. Vous pouvez répéter la manœuvre. Quel que soit le type de produit, soit des bronchodilatateurs ou des corticoïdes. Et puis, il y a en complément, pour des asthmes plus sévères, d'autres médicaments qui servent de traitement de fond, qui agissent par des mécanismes différents contre d'autres cellules impliquées dans l'asthme. Il peut y avoir même maintenant, il y a des développements du fait de l'augmentation des crises d'asthme, du fait de l'augmentation des malades, des anticorps monoclonaux dans certains cas, mais c'est très rare.
Et pour poser ce diagnostic, tout à l'heure on a parlé, professeur Louis-Jean Couder, de cette écoute de la respiration, mais il y a aussi des tests plus pointus, plus spécialisés. Là, il faut aller voir justement des allergologues ou des pneumologues qui vont pouvoir décliner la sévérité de cet asthme.
Alors, l'asthme, sa sévérité, elle est fonction surtout, à nouveau j'insiste, de faits simples, c'est-à-dire des faits cliniques. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes réveillé la nuit par de la toux ? Est-ce qu'il y a des activités que vous ne faites pas parce que vous avez remarqué votre respiration devient sifflante ou alors vous êtes essoufflé ? Est-ce que vous avez des sensations de malaise ? En clair, il y a des scores extrêmement simples qui sont des scores totalement cliniques avec zéro examen complémentaire.
Un questionnaire très simple.
Un questionnaire d'une simplicité, mais vraiment, on peut pas faire plus simple. Et en fonction de ce questionnaire, vous voyez un petit peu s'il y a ce qu'on appelle un contrôle de l'ASP. Et donc après, vous avez deux faits. Il y a d'une part, essayer de bien contrôler l'ASP. C'est un point très important parce que nos bronches, quand on est jeune, sont parfaitement élastiques. C'est comme une corde élastique. Traitez bien, traitez tôt, il n'y aura aucune séquelle. Vos bronches vont être parfaites. Au fil des décennies, les bronches perdent de leur élasticité. Elles se fibrosent un petit peu, elles deviennent moins élastiques et les traitements deviennent un peu moins efficaces. Donc j'insiste à nouveau sur le fait qu'il faut donc une adhérence et expliquer bien ça. Un des problèmes du traitement de l'asthme est finalement que les malades, pour des raisons diverses, se traitent lorsqu'ils ne vont pas bien, en général, plus ou moins bien, mais enfin ils se traitent, et ils arrêtent de se traiter dès que ça va un peu mieux. Et c'est là où est le danger, et c'est là où il faut faire appel à un confrère pneumologue ou allergologue pour mesurer comment est son souffle, pour vérifier qu'il y a un bon parallélisme entre le fait de ne plus trop avoir de symptômes et le fait que la fonction respiratoire soit normale. Il faut faire ce qu'on appelle une mesure du souffle. On peut même se surveiller soi-même au moyen de petits appareils qui ne posent aucun problème, qui sont pris en charge maintenant dans les pays occidentaux par beaucoup de mutuelles, la quasi-totalité, qui s'appellent des débitmètres de pointe, dont évidemment le résultat est fonction de votre stature. Si vous faites 2 mètres et vous êtes un gaillard de 100 kilos, vous n'avez pas la même valeur théorique de souffle qu'une vieille petite dame ou d'un vieux petit monsieur. Mais ça, c'est fourni avec les valeurs théoriques. Et ça vous permet de vous surveiller soi-même. Et je pense qu'on ne peut pas soigner une maladie chronique comme l'asthme sans prendre le temps. Et le temps, c'est pas une fois, le temps, c'est plusieurs fois, de faire comprendre cette éducation aux patients qu'on n'est jamais mieux surveillé que par soi-même.
Et justement, tout à l'heure, vous parliez de ce facteur émotionnel qu'il faut pas négliger. Justement, professeur Louis-Jean Coudert, quand vous parlez de ce contrôle et de cette surveillance, ça permet aussi de limiter cette panique qui peut prendre certaines personnes pendant les crises d'asthme, parce que c'est un facteur aggravant.
Absolument, absolument, vous avez tout à fait raison. Alors ça, on l'observe en pratique quotidienne dans deux circonstances. Les gens qui font du sport et les gens qu'on va qualifier d'émotifs et qui savent qu'ils vont se retrouver dans une situation, on va dire, à émotion forte, que ce soit une situation professionnelle ou bien de vie privée. Et ils racontent, voilà, je vais avoir une réunion. Et pendant la réunion, je ne me suis pas senti bien et je sentais que ma respiration faisait du bruit, donc j'ai obligé d'arrêter. On voit la même chose avant certains sports. Lorsque vous avez repéré ces situations, c'est exactement comme si vous repériez que vous étiez allergique aux poils d'un chat. Ben, vous le savez, elles vont arriver, et bien vous vous traitez 20 minutes avant. Vous reprenez une à deux bouffées de votre bronchodilatateur et ça se passera bien. C'est exactement pareil. Le but est de prêter attention à tout ça et à nouveau de se surveiller soi-même. Aucun médecin ne peut vous dire, on est avec vous 24 heures sur 24, voilà, c'est quand je suis ici à RFI, je me sens pas bien. Non, ça n'arrive jamais, soyez sans crainte.
Mais c'est comme simplement un trac pour certaines
voilà,
personnes.
Voilà, absolument.
Ça veut dire qu'il y a une réponse à la fois médicamenteuse et on peut dire comportementale plus que psychologique.
Ah oui, absolument. Alors là, il y a quelques personnes qui ont des... Le diagnostic est parfois un petit peu difficile parce qu'il y a une sensation de malaise général. Et c'est à nouveau, c'est finalement très simple de faire le diagnostic parce qu'il n'y a pas de crise d'asthme sans obstruction des voies aériennes. C'est comme ça. La crise d'asthme, c'est une obstruction des voies aériennes. Si vous vous sentez pas bien à un moment, vous avez ce petit appareil sur vous qui, à nouveau, a zéro composant électronique. Vous pouvez l'emmener en avion, aucun portique d'un aéroport ne vous fera la moindre remarque. Ben, vous mesurez votre souffle. S'il est normal, ce n'est pas une crise d'asthme. S'il est anormal, eh bien voilà, faut que vous preniez conscience que vous faites une crise d'asthme, quelle qu'en soit la cause. Peut-être en vérité, après, il peut y avoir des erreurs. On considère que c'est parce qu'on est émotionnellement très sensible. Mais en vérité, c'est peut-être parce qu'il y a quelque part une molécule qui vous réussit pas dans un composant que vous respirez à ce moment-là. Et puis, intervient aussi la pollution. Certaines personnes se déplacent. La pollution est un fléau pour nous. La pollution est un fléau pour nous, pneumologues et d'une manière générale pour l'ensemble de la population, surtout lorsqu'on souffre d'une maladie chronique respiratoire, quelle qu'elle soit. Ça a été très clairement démontré. Alors c'est difficile de mesurer la pollution. Je pense qu'il y a une présentation qui est une sursimplification des mesures de pollution atmosphérique. Quand on commence à travailler avec des gens dont c'est le travail, on s'aperçoit ô combien c'est compliqué. Il suffit d'un coup de vent qui vous fait modifier vos paramètres. Donc il faut d'abord vraiment travailler avec des gens très sérieux, parce que c'est compliqué les mesures de pollution, mais quand c'est fait, on voit clairement qu'il y a une aggravation de toutes les maladies chroniques respiratoires lors des pics de pollution. Et ceci n'est pas spécial à la France, ceci est à nouveau retrouvé dans l'ensemble des équipes du monde entier.
Professeur Louis-Jean Coudet, on vous retrouve tout de suite, hein, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et c'est tout d'abord une auditrice qui est en ligne du Gabon, de Libreville. Bonjour Stélia.
Bonjour Caroline.
On vous écoute.
Bonjour professeur.
Bonjour.
Je voudrais poser une question. En fait, je suis asthmatique et je voudrais savoir si j'ai pu transmettre à mes enfants. J'ai deux filles, la première à 7 ans et la deuxième à 4 ans.
Est-ce qu'aujourd'hui, Stélia, vos petites filles manifestent des signes de gêne respiratoire?
Oui, la grande, elle en rentre souvent quand elle est au repos, concentrée. Et si elle fait un exercice, par exemple, elle ronronne. Elle a comme si le souffle était, la poitrine était encombrée.
Et elle a vu un médecin à ce sujet? Vous avez posé des questions à un spécialiste éventuellement?
On est allé pour une consultation chez le pédiatre et en fait, il nous a dit qu'elle avait une bronchite. Alors, on a traité la bronchite et il nous a demandé de humidifier en fait ses narines à chaque fois avec du sérum physiologique.
Professeur Louis-Jean Coudert, cette question de Stélie en fait sur l'hérédité de l'asthme.
Voilà, alors je rentrerai pas dans le détail de la prise en charge de votre fille, évidemment, ce qui m'est impossible, mais effectivement la question que vous posez est de savoir s'il y a un trait génétique dans la maladie asthmatique. Alors la réponse est oui, mais il est très complexe. C'est-à-dire que ce n'est pas une maladie où un gène, comme dans certaines maladies, transmet la maladie. C'est ce qu'on appelle une maladie très multigénique, c'est-à-dire de multiples gènes interviennent, et en plus avec des mutations très fréquentes. Donc on peut juste noter qu'il y a plus d'asthmatiques chez les personnes dont les parents étaient asthmatiques, mais à l'inverse, ce n'est pas parce que vous êtes asthmatique que vous allez obligatoirement avoir des enfants asthmatiques. Néanmoins, on sait que c'est un facteur statistique de risque de survenue. Oui, il y a un trait génétique très clair de la maladie asthmatique qui, en vérité, sont des multiples gènes qui interviennent dans la régulation de l'inflammation bronchique. Donc oui, il faut en tenir compte. Et en ce qui concerne votre petite fille, le confrère qui s'en est occupé avait sûrement raison, et il faut vous la remontrer au confrère à distance de cet épisode aigu pour voir si les symptômes persistent.
Professeur Coudert, une question qu'on n'a pas abordée directement, celle des allergies. Justement, on parle souvent aussi de facteurs héréditaires pour l'allergie. Est-ce que c'est la même chose, le même mécanisme pour l'asthme?
Alors, finalement, pour l'asthme allergique, l'asthme n'est qu'une manifestation d'une maladie allergique, manifestation très fréquente. Elles sont souvent associées à d'autres manifestations, et notamment l'asthme est souvent associé à des manifestations de la sphère ORL, notamment des rhinites, qu'on appelle vulgairement le rhume des foins, des polyposes, et également au niveau des yeux, des conjonctivites. Les asthmatiques ont une fréquence bien supérieure à une population générale de ces manifestations orales, qui sont des manifestations empoisonnantes, passez-moi l'expression, dans la vie quotidienne, même si elles ne sont pas graves au sens de mettre en danger la vie des patients. Donc oui, il y a des manifestations allergiques. Alors, les traits génétiques sont également retrouvés, moins bien étudiés encore actuellement que dans la maladie asthmatique, mais ils existent effectivement.
On va remercier Stélia pour son appel de Libreville au Gabon. On va partir maintenant pour la Guinée à Conakry, où l'on rejoint Abdoulaye. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour Caroline.
On vous écoute,
bonjour,
Abdoulaye.
D'accord. Bon, moi, depuis juin 2011, on a découvert l'asthme chez moi. Mmh. Et dès les premières heures, on m'a prescrit Ventoline. Et depuis lors, quand les crises d'asthme me frappent, je prends le Ventoline. Maintenant, mes questions sont les suivantes. Est-ce que le fait de continuer d'utiliser Ventoline n'a pas de conséquences négatives sur mon état de santé?
Mm-hmm.
Et la deuxième question, est-ce qu'il existe d'autres moyens de lutte efficaces contre cette maladie? en dehors du Ventoline. Et la troisième question, est-ce que, comme le laissent entendre certaines personnes, est une maladie incurable?
Alors, trois questions, Abdoulaye. Trois questions assez générales. D'abord, celle plus précise sur son traitement. Ventoline, un nom que les malades, que les asthmatiques connaissent bien, leur entourage aussi. Le contenu de ce traitement, c'est quoi précisément, professeur Coudert?
Alors, effectivement, c'est un nom commercial dans le laboratoire, mais qui est, comme il a été un des premiers mis sur le marché, il est un peu comme le nom d'une célèbre marque de stylo à billes, devenue quasiment synonyme de la classe médicamenteuse. Alors c'est ce qu'on appelle un bronchodilatateur, qui, ce qu'on appelle un bêta 2 mimétique dans notre jargon, c'est-à-dire qu'il va se activer des récepteurs qui vont dilater vos bronches.
L'inquiétude d'Abdoulaye, c'est alors, si j'en prends souvent, voilà. Est-ce que ça peut nuire à ma santé?
C'est une très bonne question que vous posez, parce que c'est justement cette crainte qui fait que les malades sont sous-traités. Il n'y a pas de danger à se traiter. Au contraire, la gravité des crises d'asthme vient de ne pas se traiter. Par contre, si vous avez besoin de beaucoup de ce classe de médicaments plusieurs fois par jour, ou bien de beaucoup de bouffées, ceci signifie qu'il faut rajouter un autre médicament. Non pas que celui-ci n'est pas efficace, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure pour la tension artérielle. Vous devez rajouter un autre médicament, et si vous faites des crises plusieurs fois par jour, il faudrait peut-être que vous retourniez voir le confrère qui vous prend en charge pour que vous ayez un médicament de plus longue durée d'action. L'intérêt de celui que vous utilisez, vous l'avez remarqué vous-même, c'est que quand vous faites une crise, il est efficace en 1 à 2 minutes. Donc vous êtes très rapidement soulagé, donc vous êtes content, donc vous allez mieux. Mais il ne va durer que 2 à 3 heures. Donc, vous n'allez pas être couvert, si je puis me permettre, pendant longtemps. Donc, il faut utiliser des médicaments qui vont s'administrer de la même manière, extrêmement simple, en inhalation, mais qui vont vous permettre d'avoir un traitement qui va couvrir l'ensemble de la journée. Et puis, si ça ne suffit pas, avec le même mode d'administration, vous aurez également, alors à ce moment-là, un anti-inflammatoire. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu le début de l'émission, j'expliquais qu'il y avait à la fois dans l'asthme les bronches trop serrées et des cellules inflammatoires. Avec celui que vous utilisez, vous essayez, si on fait simple, de desserrer vos bronches pendant 2 à 3 heures. C'est bien, ça peut vous sauver la vie, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas toujours suffisant.
Il faut traiter le fond. Cette autre question que posait Abdoulaye, est-ce que l'asthme est vraiment incurable? Quand on parle d'une maladie chronique, la réponse est un petit peu dans l'intitulé, non?
Alors non, parce que incurable, c'est un petit aspect, je dirais, moyenâgeux les incurables. Non, qu'est-ce que ça veut dire une maladie incurable? Une maladie incurable, ça veut dire qu'on ne peut rien faire pour vous, que ça ne va jamais s'améliorer. Au contraire, le but, et ce qui est quand même obtenu dans la majorité des cas, c'est une absence de symptômes, c'est-à-dire une absence de gêne, aussi bien dans la vie privée, dans la vie professionnelle, dans la vie sportive. L'immense majorité des malades asthmatiques n'ont plus aucun symptôme lorsqu'ils sont traités. Mais, à nouveau, le médecin ne peut rien sans vous, Abdoulaye. C'est-à-dire qu'il faut vous astreigner à noter vos symptômes, à noter ce qui se passe, à remarquer s'il y a ce qu'on appelle des facteurs aggravants de vos crises. Les maladies chroniques, c'est un mélange, c'est une coopération entre le malade et l'équipe qu'il prend en charge. S'il ne coopère pas, ça ne va pas marcher. Il faut vous participer à votre prise en charge.
Voilà, Abdoulaye, ses réponses. Continuez à utiliser votre traitement jusqu'à ce que vous alliez voir le médecin qui pourra éventuellement réajuster pour que vous ayez des crises moins fréquentes. Est-ce que ces réponses vous ont satisfait, Abdoulaye?
Très bien.
Merci beaucoup. Excellente journée en Guinée à Conakry. On va prendre un dernier appel. C'est Alain à Maroua au Cameroun. Bonjour Alain.
Oui, bonjour Caroline.
On vous écoute.
Bon, en fait, je suis un amateur de football, donc j'ai l'habitude de jouer souvent le football. Bon, pendant que je joue souvent, j'ai constaté que j'avais des essoufflements et ça m'empêchait de respirer pendant longtemps. Et quand je commençais un peu plus au foot, il arrivait que je m'évanouisse. Je suis donc arrivé à l'hôpital et on m'a dit que c'était un début d'asthme et que pour cela, je devais un peu mettre la pédale douce au niveau du sport. Donc, ne pas pratiquer des activités trop intenses, trouver des activités, je dis quoi, un peu moins intenses en tout cas. Donc, le médecin m'a conseillé de faire, de pratiquer, par exemple, la course, donc, de temps en temps, de courir, que ça allait réguler mon rythme cardiaque et puis que ça allait aussi m'aider au niveau de la respiration.
Au niveau, au-delà de ces conseils, Alain, est-ce que votre médecin vous a prescrit un traitement et vous a donné des conseils de comportement, de conduite à adopter?
Oui, c'est justement, il m'a prescrit de, parce que c'était seulement pour le sport. Donc, c'est quand je courais, quand je faisais uniquement le ballon, que ça m'arrivait. Mais la plupart du temps, je n'avais pas de problème de respiration. Donc, il m'a donc conseillé donc, de pratiquer de la course, en fait, donc les petits footings, et ainsi de suite. Bon, je l'ai fait, mais ça ne marchait toujours pas. Et puis, quelques temps après, j'ai découvert donc, le cyclisme et j'ai commencé donc à me mettre au vélo. Et je crois que ça fait peut-être plus d'un an que je fais le vélo maintenant et je ne ressens plus les symptômes de fatigue que j'avais au départ quand je jouais le ballon. Donc, j'aimerais savoir, donc, est-ce que la pratique du foot, du sport, donc, peut être un facteur de guérison?
J'ai bien l'impression que vous avez répondu par vous-même à la question, professeur Louis-Jean Coudert. Certains sports plus adaptés que d'autres?
Alors, finalement, vous avez deux types de passions sportives, si je comprends bien, le football et le vélo. Ils sont assez différents. Le football, comme beaucoup de sports de balle, vous faites une série d'efforts, ce qu'on appelle fractionnés, vous en êtes d'accord? Le vélo est en général plutôt un effort prolongé, un peu comme le footing sur moyenne et longue distance. Alors si je comprends bien, vous avez fait des crises d'asthme sévères en jouant au football. Mais je comprends que le football soit votre passion. Et dans ce cas-là, si vous l'avez remarqué, au point d'ailleurs de vous évanouir, ce qui effectivement est dangereux, parce que si vous vous évanouissez sur une crise d'asthme, ça veut dire que votre cerveau n'est pas assez oxygéné. Eh bien, comme vous l'avez remarqué et que vous savez que ça se produit à chaque fois, il faut vous traiter avant de faire votre match de foot. Et d'ailleurs, si vous faites un autre sport de ballon, ça sera exactement la même chose. Donc, vous vous traitez avec soit un bronchodilatateur, il y a d'autres médicaments dont je ne peux pas dire les noms ici, mais que votre médecin peut vous prescrire, qui sont administrables par voie orale, qui sont très adaptés à ce qu'on appelle l'asthmosport. Donc, le sport n'est en rien, une contre-indication chez l'asthmatique, au contraire. Il peut y avoir de discrètes réserves sur les sports aux piscines, lorsque les piscines sont couvertes, parce que pour des raisons d'hygiène, il y a des divers désinfectants, donc notamment du chlore, qui peut déclencher des crises d'asthme. Enfin, ce n'est pas votre problème, donc vous n'êtes pas concerné. Donc le sport, au contraire, est extrêmement important. Et on cite toujours l'exemple de cet athlète anglais qui a été champion olympique du 400 mètres en étant un asthmatique connu. Donc, on peut être un très grand champion et être asthmatique, seulement, à nouveau, il faut se traiter, il faut se surveiller. Alors le vélo, pourquoi vous faites un sport que vous tolérez bien et l'autre vous tolérez pas? Ben, vous l'avez remarqué vous-même, vous faites du fractionné d'un côté avec une hyperventilation intense, une modification de l'acidité, de la température, versus un sport où vous échauffez progressivement avant d'accélérer petit à petit. Vous n'avez donc pas les mêmes conditions, on va dire, climatiques, si je puis me permettre, dans vos bronches, dans les deux circonstances. Il y en a une qui n'a l'air de moins vous gêner, mais encore, faudrait-il, par prudence, que vous le démontriez, c'est-à-dire que vous fassiez, par prudence, avec votre médecin, une mesure de votre souffle, toujours au moyen de mon petit appareil qui coûte vraiment 3 francs 6 sous, en faisant du vélo, pour être sûr que le calibre de vos bronches est correct. Voilà, donc continuez à faire du sport, c'est parfait, et adaptez votre traitement à votre pratique sportive.
Voilà, Alain, pour ces conseils. Très bonne journée à Maroua, à vous au Cameroun et à vos proches.
Merci beaucoup.
Vous restez avec nous, hein, professeur Louis-Jean Coudert. On va continuer à parler de l'asthme, hein, prise en charge adaptée, observation du traitement, juste après une petite pause musicale avec M en compagnie de Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté et Fatoumata Diawara avec Cet air.
Cet air, t'en souviens-tu? Ce bel instant perdu d'un Paris qui n'est plus. Cet air, t'en souviens-tu? L'odeur d'un matin nu, d'un Mali dévêtu. Trouvera.
Cet air extrait de l'album L'Amomalie avec M est toujours avec nous en studio le professeur Louis-Jean Couder, chef du service de pneumologie à l'hôpital Foch à Suresnes en région parisienne. Alors depuis le début de cette émission de Priorité Santé, on parle facteurs, diagnostic, prise en charge. Mais il faut le dire, hein, professeur Couder, l'asthme tue encore dans le monde. D'après l'OMS, estimation 2016, près de 400 000 décès, 383 000 décès. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ces cas mortels ?
Alors ces cas mortels, l'immense majorité devrait être évitée. L'immense majorité, surtout dans les pays où il y a tous les médicaments, si finalement ces médicaments, vous l'avez vu, sont des médicaments simples, peu chers, tous ces traitements devraient être évités s'il y avait une meilleure éducation à nouveau du sujet asthmatique. Vous me direz, il y a toujours une première fois. Bon, c'est vrai. Mais ça, c'est comme toute la médecine. Mais il est rarissime que la première crise d'asthme soit d'emblée gravissime. En général, plutôt, c'est une méconnaissance de symptômes qui se sont petit à petit aggravés, de toux, de sifflements, de gêne. Et finalement, à l'occasion d'un autre événement supplémentaire, il y a une crise d'asthme sévère. Et donc, il est vrai qu'on voit encore des gens qui arrivent avec des crises d'asthme sévères. Et après, intervient ce qui avait été évoqué tout à l'heure, une crainte dans les traitements. Donc, les gens se disent « Oh là là, mais on m'a dit, ces médicaments, ça favorise les maladies. » C'est exactement comme la douleur et la morphine. Pendant des années, on n'a pas utilisé la morphine en disant « Ça y est, on va être toxicomane. » Non, soignez-vous. Et puis, le vrai problème, il est à nouveau l'absence d'éducation, c'est-à-dire qu'une crise qui ne s'améliore pas immédiatement doit être à nouveau traitée en plus. C'est-à-dire qu'après les bronchodilatateurs, très rapidement, il y a un autre médicament qui est à nouveau disponible dans le monde entier pour quelques centimes, qui sont les corticoïdes, qui luttent sur l'aspect inflammatoire de ces cellules qui viennent envahir vos bronches. Et avec le mélange corticoïdes-bronchodilatateurs, vous évitez de mourir. Donc, les asthmatiques doivent le savoir. Ils doivent avoir sur eux, quand ils vont au travail, parce que potentiellement, il peut y avoir toujours une crise d'asthme sévère intellectuellement. Donc, il faut qu'ils aient sur eux, dans leur sac ou dans leur blouson, un bronchodilatateur et quelques comprimés de cortisone. Et avec ça, ils sont à l'abri d'une crise d'asthme sévère pouvant mettre leur vie en danger. La deuxième erreur qu'on voit, et surtout, alors moi je ne suis pas médecin d'enfants, je ne soigne que les adultes, la deuxième erreur est à nouveau la peur de l'asthme. Il y a comme ça quelques maladies dont les mots font peur toujours, tuberculose, syphilis, etc. L'asthme, pareil, ça inquiète des parents de se dire « Oh là là, mon fils, ma fille est asthmatique » et donc on leur donne des, entre guillemets, des traitements divers qui vont retarder la vraie prise en charge de l'obstruction bronchique. Parce que comment meurt-on d'asthme ? On meurt parce qu'on a les bronches bouchées. C'est un problème de tuyauterie. Si les bronches ne sont pas bouchées, on ne meurt pas.
Est-ce que ça veut dire, professeur Couder, que plus on se traite tôt, plus on limite l'aggravation
Absolument.
De l'asthme ?
Absolument. Alors, on limite l'aggravation de l'asthme à plusieurs aspects. Premièrement, parce que plus on se traite tôt de fond, plus les bronches demeurent de bonne qualité. Et donc, moins les crises sont sévères, moins elles sont fréquentes. Et moins, finalement, au bout de 10-20 ans, il y a des séquelles. Donc, absolument. Et deuxièmement, plus on se traite tôt dans une crise, et bien évidemment, moins elle est sévère. Et donc, le but, on ne peut pas toujours empêcher la survenue d'une crise. Mais alors d'abord, ce n'est pas normal lorsqu'on est déjà traité qu'on fait des crises. Soit il y a eu un facteur évident, totalement inhabituel. Mais s'il n'y en a pas eu, il faut rappeler son médecin pour lui signaler, écoutez, j'avais pas fait de crise et là j'en ai fait une, j'en ai fait deux, j'ai pas repéré quelque chose de spécial. Il faut aller voir son médecin pour revoir avec lui s'il ne faut pas réadapter le traitement de fond.
Alors on peut rappeler ce chiffre de l'OMS, 235 millions de personnes touchées dans le monde, véritable problème de santé publique. Et cette maladie, l'asthme sévit dans tous les pays, c'est pas du tout une question de revenus ou de moyens ou de lieu de vie. Et on va prendre justement tout de suite la direction de la République démocratique du Congo.
Priorité santé sur RFI.
Pour retrouver le professeur Zachary Kachangwe, bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes pneumologue aux cliniques universitaires de Kinshasa. Professeur Kachangwe, est-ce que l'asthme est une maladie que les Congolais connaissent bien ?
Oui, elle est connue partout dans le pays. Et il existe même des traitements traditionnels que les gens ont toujours utilisés quand ils avaient ce genre de symptômes.
Des traitements qui les soulageaient ou des traitements qui ne marchaient pas forcément très bien ?
Non, il y en a dans la médecine traditionnelle qui, des médicaments qui soulagent. Il y en a qui soulagent.
Professeur Kachongo, est-ce que vous disposez de chiffres justement pour votre pays, la RDC? Est-ce qu'on a des données sur la prévalence de l'asthme en République démocratique du Congo?
Les données pour tous les pays, on n'en a pas. Vous savez, notre pays, c'est un continent qui est très mal couvert par les services de santé. Et ce qu'on a, c'est des données de quelques études menées à Kinshasa dans le cadre de l'enquête ISAC qui était internationale à l'époque en 2001-2003 pour les jeunes de 13 à 14 ans. Et là, on arrivait autour d'une prévalence de 7,5%. Je pense que c'est globalement dans ces marges qu'on a, bien qu'une étude ultérieure qui avait une marge plus longue de 5 à 83 ans ait trouvé des chiffres beaucoup plus élevés. Mais là, il y a déjà l'effet de l'âge qui intervient.
Est-ce que vous avez des indications sur l'augmentation du nombre de cas, professeur Zachary Kachongwe, en particulier lors de vos consultations? Est-ce que vous avez de plus en plus de demandes de rendez-vous ou vous n'avez pas vraiment observé cette tendance?
Ces derniers temps, oui. Ces dernières années, le nombre de malades augmente. Nous avons d'ailleurs une enquête actuellement en cours qui nous donnera l'actualisation des symptômes de l'asthme à travers toute la ville de Kinshasa. Mais on a manifestement l'impression que le nombre a augmenté les 10 dernières années.
Et est-ce que les traitements sont abordables en République démocratique du Congo?
Maintenant, avec l'arrivée des génériques, le traitement commence à être abordable parce qu'avec les spécialités, le coût était prohibitif. Et ça arrange un peu, mais ce n'est pas encore suffisant pour une population qui n'a pas beaucoup de moyens.
Avec quand même des problèmes quand on est face à une maladie chronique, il faut prendre des médicaments au long cours. Professeur Kachongwe, peut-être que les gens vont plus vers le traitement de l'aigu et pas vraiment vers justement ce traitement au long cours.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. La plupart des gens viennent pour les phénomènes aigus et on leur propose une prise en charge à long cours qu'ils ne suivent pas. Ça, c'est vrai, mais ils ne suivent pas aussi parce que peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour le faire.
Bien évidemment. Est-ce que vous avez justement des conseils dans ce cas à leur prodiguer pour essayer d'améliorer la situation et ne pas se retrouver face à des situations d'urgence extrême?
Oui, tout à fait. Nous avons commencé il y a quelques temps la sensibilisation des équipes d'abord des soins pour l'approche pratique en santé respiratoire où ils auraient beaucoup plus d'attention attirés vers l'asthme, mais également le fait de disposer de médicaments de première urgence. Le programme national de lutte contre la tuberculose dans le cadre du Fonds mondial avait reçu des médicaments. Ils ont mis à la disposition des grands hôpitaux à Kinshasa pour être distribués gratuitement en cas d'urgence. Mais l'autre conseil également, c'est de s'affilier aux mutuelles de santé. L'expérience des mutuelles vient de commencer. Beaucoup de gens n'y sont pas encore, mais ce serait une piste pour pallier à l'absence des moyens.
Et pour pouvoir justement bénéficier d'un traitement face à cette maladie chronique. Merci infiniment, professeur Zachary Kachongwe, d'avoir été en ligne avec nous de République démocratique du Congo. Je rappelle que vous êtes pneumologue aux cliniques universitaires de Kinshasa. On vous retrouve, professeur Louis-Jean Couder, chef du service de pneumologie à l'hôpital Foch à Suresnes. Il y a un mot que j'ai pas encore prononcé depuis le début de cette émission. C'est le mot de tabac.
J'allais y venir.
Tabac et asthme. Si pour toutes les maladies, si pour la santé en général, on dit non, là, on dit trois fois non.
Alors vous avez raison, j'allais y venir. Et là, à nouveau, ça nécessite une coopération. S'il y a bien un ennemi pour de l'asthmatique, c'est le tabac. Et vous avez raison, le tabac est connu pour ses effets globaux. Donc, sur lesquels on ne va pas revenir, du risque cardiovasculaire et le risque de développement du cancer bronchique. Chez l'asthmatique, l'asthmatique paye un lourd tribut au tabac pour plusieurs raisons. Parce que, outre ces risques évidemment, le tabac contient des molécules inflammatoires. Donc le tabac est un facteur majeur de déséquilibre de l'asthme.
Y compris le tabagisme passif, on pense par exemple aux enfants.
Alors, y compris le tabagisme passif, mais surtout le vrai tabagisme. Et la cigarette électronique n'est pas bonne non plus. La cigarette électronique a un risque diminué vis-à-vis du cancer du poumon, mais son risque chez l'asthmatique n'est pas et demeure. Donc il ne faut pas fumer quand on est asthmatique. Et en plus, l'asthmatique a un autre tribut, c'est que certains composés du tabac empêchent l'action des molécules de corticoïdes inhalées. Donc l'asthmatique paye un lourd tribut au tabac, outre les risques usuels. C'est un facteur d'aggravation de son asthme et c'est un facteur de moindre efficacité de ses traitements. Donc là, il faut être vraiment clair. L'asthmatique ne doit pas fumer. L'asthmatique ne doit pas fumer.
Parce qu'il y a, il y a certains produits, professeur Couder, qui ont des interférences directes avec la maladie, voire avec les traitements. Ça rejoint une question qui nous est posée par Michel, qui est au Congo-Brazzaville, dans la ville de Pointe-Noire. Elle est asthmatique et elle s'interroge pour savoir si certains médicaments peuvent justement avoir un effet sur son asthme, parce qu'on lit sur certaines notices à éviter en cas d'asthme. Une question très concrète, hein, par exemple. Quand on a des poux, il y a un certain nombre, par exemple, de produits à mettre sur la chevelure sous forme de spray. Il y a marqué ne pas utiliser en cas d'asthme. Il y a tout un tas de produits. On dit, si vous êtes asthmatique, ne prenez pas tel ou tel produit, tel ou tel contenant.
Alors, vous avez raison, il faut être vigilant. Il faut être vigilant, on ne peut pas énumérer tous les produits, mais l'asthmatique est globalement un peu plus sensible, notamment au traitement inhalé. Donc, si vous utilisez des poudres, quelles qu'elles soient, vous avez potentiellement à risque de déclencher des crises d'asthme. En vérité, c'est pas très fréquent. Mais il faut toujours lire. Alors, je reconnais que s'il y a bien quelque chose qui est en général peu compréhensible, ce sont les notices des divers produits pharmaceutiques. Il faut déjà une très bonne vue, une bonne paire de lunettes.
C'est écrit tout petit.
C'est écrit tout petit, on peut dire de 12, et encore. Et donc, c'était pas si simple. Néanmoins, il faut quand même les lire. Alors, il y a certaines classes de médicaments qui sont connues.
Ça veut dire peut-être surtout, professeur Couder, excusez-moi de vous interrompre, il faut dire absolument, à son médecin qu'on est asthmatique.
Voilà. Il faut dire à son médecin qu'on est asthmatique. Parce qu'on peut voir son médecin ou un médecin qu'on ne connaît pas en étant parfaitement bien parce qu'on fait que des crises intermittentes. Il vous découvre une hypertension et vous donner un certain produit ne sont pas recommandés. Et puis donc, il faut toujours reconsulter avant de rajouter un traitement chez un asthmatique.
On a parlé des facteurs environnementaux, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous, les pneumologues, professeur Couder, vous avez l'impression d'être suffisamment associés à la réflexion sur la pollution, sur les polluants, sur cette fameuse diffusion des particules?
Alors, être associé, oui et non. C'est-à-dire que, en vérité, c'est un problème majeur qui dépasse largement, évidemment, le problème du pneumologue. C'est tout le monde industriel, tout le monde de la circulation automobile. Vous savez, nos collègues belges ont très clairement démontré, sur un travail magnifique, le rôle des autoroutes chez les sujets qui ont été transplantés pulmonaires. En clair, il n'y a pas plus grave que d'habiter près d'une autoroute pour avoir un risque de rejet pulmonaire. Puis il y a d'autres événements sociologique important, sur lequel on pourra revenir une fois, qui est l'obésité. L'obésité est un facteur extrêmement nuisible de contrôle de la maladie asthmatique. C'est une maladie qui se répand partout dans le monde. Il y a une corrélation entre l'obésité et l'instabilité de l'asthme.
Merci beaucoup, professeur Louis-Jean Couder, de nous avoir accompagnés pendant cette émission, éclairée sur l'asthme, cette maladie chronique, on l'a bien compris, problème majeur de santé publique. Je rappelle que vous êtes chef du service de pneumologie à l'hôpital Foch, à Suresnes, en région parisienne. Sport et santé, on en parle tout de suite avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Bien sûr, le sport, hein, c'est important pour rester en bonne santé. Mais il existe parfois des accidents cardiovasculaires qui surviennent lors d'une activité physique pratiquée de manière très intensive. Alors, docteur Sen, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour justement la prévention de ces accidents parfois dramatiques?
Mais absolument, Caroline. Il faut savoir que, par exemple, en France, il y a 1300 morts subites par an sur les terrains de sport. Hein. C'est extrêmement important. Et on compte à peu près 1500 infarctus du myocarde. Alors du coup, il y a des règles qui ont été édictées pour essayer de prévenir ces accidents cardiaques par ce qu'on appelle le club des cardiologues du sport. Alors, la première chose, c'est qu'on se rend compte qu'il existe quelquefois des symptômes très inquiétants qui ne sont pas signalés. Hein, 70% des symptômes inquiétants sont non signalés. Et alors ça veut dire, première chose, que si vous avez une douleur dans la poitrine, un essoufflement anormal, une palpitation cardiaque ou bien des malaises, eh bien ça, c'est pas banal. Il faut absolument le signaler à son médecin, que ce soit à l'effort ou juste après l'effort, il faut absolument signaler ces symptômes.
Alors, du côté des recommandations quand on commence des exercices, est-ce qu'il y a justement des conseils sur les conditions de cette pratique sportive ?
Oui, également, hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut avoir une montée en régime progressif quand on fait du sport pour permettre l'ouverture des vaisseaux, une augmentation du débit cardiaque. Et donc, un échauffement et une récupération de 10 minutes sont absolument conseillés. L'hydratation aussi est extrêmement importante parce qu'on sait que ça permet de limiter les risques de troubles du rythme cardiaque et donc boire 3 à 4 gorgées d'eau toutes les 30 minutes, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Et puis enfin, on sait que quand il fait très chaud ou très froid ou dans l'ordre des pics de pollution, eh bien ça peut favoriser les troubles du rythme cardiaque là aussi ou l'angine de poitrine. Donc s'il fait moins de 5 degrés, plus de 30 degrés ou lors des pics de pollution, eh bien là aussi il faut être attentif à ne pas faire trop d'exercices physiques.
Alors on imagine aussi que certaines mauvaises habitudes, consommation de produits toxiques par exemple, sont particulièrement risquées pour le cœur.
Absolument Caroline, première chose, le tabac. Le tabac, on sait que ça peut favoriser un spasme coronaire et donc un trouble du rythme cardiaque. Donc il ne faut jamais fumer une heure avant ni deux heures après une pratique sportive. Bon, j'aurais envie de dire qu'il ne faut jamais fumer tout court. Hein. Et puis, il faut aussi dire que certaines substances dopantes posent des problèmes d'hypertension artérielle, de thrombose, de troubles du rythme cardiaque. Et donc là aussi, l'automédication ou la prise de substances dopantes doit être absolument proscrite et évitée.
Et puis, docteur Jean-Marc Sen, être aussi bien conscient de son état de santé avant justement de s'engager dans une activité physique.
Et oui, Caroline, parce que par exemple, lorsque l'on est victime d'une angine ou d'une bronchite virale, et ben ce même virus va entraîner une inflammation du muscle cardiaque. Et ça peut entraîner un trouble du rythme. Donc, si on a de la fièvre, il ne faut pas faire de sport intensif. Et ça, y compris dans les 8 jours qui suivent l'épisode grippal. Et puis, il faut savoir que lorsqu'on reprend le sport, eh bien, le risque de faire un accident cardiaque est 100 fois supérieur à un sportif régulier. Donc, le dernier conseil, c'est d'essayer de dire qu'il faut pratiquer un bilan médical cardiaque avant de reprendre une activité physique intensive, à plus de 35 ans chez les hommes et plus de 45 ans chez les femmes. Bon, il n'y a pas de sexisme là-dedans, c'est juste que les maladies cardiovasculaires augmentent un petit peu après la ménopause. Voilà. Alors, en suivant ces règles, normalement, vous devriez pouvoir faire une activité physique avec une grande sécurité cardiovasculaire.
Et sans danger. Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin sportif, médecin de l'équipe de France de judo. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tout ça, Maki, Ophélie Lassen, Didier Bleu aujourd'hui, Laurent Hérault, à demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.